Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Méniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite progresser dans tout ce que vous entreprendrez, tant au niveau professionnel que personnel. Trois petites choses avant de passer à l'interview du jour. D'abord, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont peut-être vu que j'ai lancé il y a peu une chaîne YouTube. Figurez-vous, pour l'instant, l'objectif, je vais être honnête, c'est essentiellement de vous donner un autre canal d'écoute pour les podcasts. Donc, vous verrez qu'il n'y a que des podcasts en fait, que j'ai déjà enregistrés sans images particulières. Je sais que vous êtes nombreux à écouter Le Gratin au travail devant un ordinateur et YouTube peut être une bonne option pour ça. Je vous mets le lien sur le blog du Gratin et ici également dans les notes de l'épisode. À l'avenir, j'essaierai de diffuser également donc mes épisodes de podcast avec de la vidéo, donc pour que vous voyez comment ça se passe, l'envers du décor des interviews du Gratin. Deuxièmement, je cherche de nouveaux invités pour le format des leçons du Gratin. Que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs, ça m'intéresse aussi énormément d'avoir des personnes qui bossent soit en freelance, soit dans des grosses boîtes, soit dans des PME, peu importe, ou même peut-être qui n'ont pas d'emploi. Si vous avez une question à me poser, que ce soit sur le management, l'acquisition client, des lectures aussi, Instagram, l'organisation pro-perso, j'en discuterai avec vous avec plaisir. Le plus simple pour moi serait que ceux qui sont intéressés à l'idée de passer dans un de ces épisodes, qui ont une question, m'envoient un message directement sur Instagram. Vous connaissez l'adresse, c'est Pelignau, P-L-A-I-G-N-E-U. Donc j'attends vos suggestions avec impatience. Enfin, le plus important pour la fin, je voulais quand même prendre le temps de vous dire un grand merci à vous tous qui écoutez tous les jours le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Le matin en allant au boulot, le soir à la maison, en cuisinant, en faisant du sport. Enfin, j'ai l'impression que voilà, vous vous appropriez le podcast vraiment au moment qui sont les moments clés pour vous. Et votre engagement à parler du gratin autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues, est vraiment un cadeau inestimable que vous me faites. Et je vois les résultats, je voulais vous le dire, parce que tout ce bouche à oreille fait tout simplement que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à vous abonner au podcast. Donc pour ça, juste un énorme merci, ça me touche énormément et surtout, ça me motive surtout énormément pour continuer à diffuser le gratin. Alors, c'est terminé pour ces petits points techniques pour ce qui est de l'interview du jour. Aujourd'hui, je suis avec Justine Hutto, fondatrice de la marque de cosmétiques naturels Respire. Justine est vraiment un petit ovni dans le monde de l'entrepreneuriat. À peine 26 ans, elle crée donc cette marque Respire suite à une expérience personnelle dont elle nous parlera dans le podcast. Je ne vous dévoile pas ça tout de suite. Et la raison pour laquelle je voulais avoir Justine sur le podcast, c'est simple, c'est que habituellement, j'ai quand même des personnes qui ont fait de grandes affaires, de grandes choses et qui sont un petit peu plus âgées, qui surtout ont beaucoup de recul parce qu'elles ont déjà, entre guillemets, réussi. Justine, c'est une personne qui est en très bonne voie pour être un grand succès avec Respire, mais finalement est encore au début de son aventure. Respire n'a qu'un an à peine et j'ai trouvé absolument fascinant et intéressant de donner la parole à une entrepreneure encore en pleine construction de marque. Cette interview a été effectuée en public dans la boutique Gémio située rue de Seine à Paris dans le 6e, ce qui explique qu'on entende par moments des scooters passer ou des ambulances, ce genre de choses, je vous préviens. On va dire que ce sont les aléas d'un live et j'espère que vous ne m'en voudrez pas et surtout que ça n'enlèvera rien à la qualité de votre écoute. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Justine Hutto. Bonjour à tous et bienvenue avec Justine Hutto chez Gémio. On est super contents de vous accueillir tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux. Ça fait très plaisir pour ce podcast enregistré en live où Justine va répondre à toutes vos questions les plus indiscrètes. On a un petit peu chaud, j'en suis désolée, mais on est quand même sympathique. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on est vraiment très contents de vous accueillir ici à la boutique Gémio. Pour vous expliquer comment ça va se passer, on va faire 30 minutes où c'est moi qui, de manière très dictatoriale, vais poser les questions à Justine et Justine va y répondre merveilleusement. Et ensuite, c'est vous qui allez poser les questions et on va aussi avoir des questions sur Instagram, on espère. Donc n'hésitez pas Instagram à déjà préparer vos questions aussi. Et ça sera aussi pendant à peu près 30 minutes. Et d'ici une petite heure, on aura terminé. Ensuite, on fera un petit cocktail. Voilà. Donc je vais commencer en fait tout simplement par évidemment remercier Justine d'avoir accepté l'invitation.
De rien, merci de m'inviter.
Voilà. Et Justine, alors du coup, comme je fais souvent ça, je suis allée farfouiller sur toi. Sur le web, j'ai trouvé plein de choses pour cette interview et j'ai trouvé en fait au final un truc assez simple, mais je voulais te le relire, c'est sur ton profil LinkedIn qui est très bien. J'ai trouvé donc que tu es fondatrice de Respire, une marque de déodorant naturel, sain pour le corps humain, efficace toute la journée pour hommes et femmes, fabriquée en France et recyclable. Donc jusque là, on connaît, on suit, on est content. Le lancement a été réalisé via une campagne de crowdfunding entre le 5 novembre et le 7 décembre 2018 et en un mois, et on va en parler, vous avez vendu donc 21 018, pour être tout à fait précis,
exactement.
Je vois, déodorants qui ont été commandés et plus de 2 millions de vues sur vos vidéos partagées sur les réseaux sociaux.
C'est exact.
Donc c'est quand même une belle entrée en matière pour une première aventure entrepreneuriale. Et du coup, une des raisons pour lesquelles j'étais particulièrement contente d'avoir Justine ici avec nous et sur le podcast, c'est que Respire est encore une jeune aventure, déjà un très beau succès et bravo Justine pour tout ça, mais elle est encore quand même en plein dedans, en plein dans cette aventure. Et donc on trouvait que c'était vraiment intéressant de lui donner la parole pour vraiment vivre avec elle justement ce que c'est que l'aventure entrepreneuriale quand on est encore au début. Et je pense que ça intéressera, j'espère, de nombreux d'entre vous. Donc voilà, je stoppe cette introduction extrêmement longue et Justine, en fait, tout simplement, est-ce que tu peux me dire, je sais que tout le monde connaît l'histoire, mais quand même, en gros, qu'est-ce qui, alors avant peut-être de parler de Respire, qu'est-ce qui déjà t'a fait commencer à t'intéresser à tout ce qui est digital et notamment pourquoi est-ce que tu t'es lancée donc sur Justine Run, ton compte Instagram, et ensuite on va parler de Respire bien sûr.
Alors ça, bonjour. Alors mon compte Instagram, c'est vrai que ça remonte à...
C'était quand au final que t'as lancé ça ?
J'ai lancé mon compte Instagram février 2017.
D'accord.
Pour être précis. Et en fait, ça remonte, je pense qu'il y en a peut-être qui ont déjà entendu mon histoire. En fait, en 2016, donc j'ai fait mes études au Canada, j'ai fait HEC Montréal. Et en fin 2016, je finissais une maîtrise scientifique en marketing et il fallait que je choisisse un sujet de thèse de fin d'études et un directeur de thèse. Et il y avait un professeur qui s'appelait Jean-Sébastien Marcoux, qui est un professeur très reconnu à HEC Montréal, anthropologue, et j'avais très très envie de travailler avec lui. Et du coup, je vais le voir et je lui propose un sujet qui est pas du tout celui auquel vous pensez. En fait, avant, j'ai diplômé en finance en 2016 et j'ai continué en marketing parce que je me suis rendu compte que la finance, c'était pas non plus exactement ce que je voulais faire. Mm-hmm. J'avais envie de plus de relationnel. Et en fait, j'avais envie d'aller travailler dans un cabinet de conseil.
D'accord.
Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'avais une vision que le cabinet
comme
de conseil, j'allais m'éclater, ça allait être plein de sujets différents, j'allais jamais faire la même chose, j'allais intervenir dans sur plein de choses différentes. Et j'avais cette vision-là du cabinet de conseil. Je ne sais pas si des personnes dans la salle ou qui me regardent quelque part travaillent dans un cabinet de conseil et pensent ça, je ne sais pas. J'aimerais bien en discuter d'ailleurs. Savoir si j'ai fait le bon choix ou pas.
Une reconversion.
Et en fait, je vais voir mon directeur et je lui dis, j'ai un super sujet en tête, je veux étudier comment on implante une marque à l'international. Donc, l'adaptation de la culture de marque pour s'adapter à d'autres pays. Il me regarde et il me dit, c'est un bon sujet, mais c'est vu et revu. Donc, si tu veux travailler avec moi...
C'est des sujets que j'ai fait, moi.
Mais non. Et du coup, il me dit, c'est vu et revu.
Il n'a pas eu l'intelligence de me dire que c'était vu et revu. Il m'a dit, vas-y, ma petite.
Je trouvais ça passionnant. Et il me dit, écoute, si tu veux travailler là-dessus, choisis un autre professeur. Très bien. Donc, je réfléchis. Il me dit, moi, je suis anthropologue, je m'intéresse au comportement humain. Donc, j'aimerais que tu choisisses un sujet qui s'intéresse beaucoup plus à la société, des questions que tu te poses sur la société. Et en fait, c'est très drôle, mais on était en novembre 2016 et mes parents et ma sœur, le 23 novembre 2016, venaient de courir leur premier marathon. Ils s'étaient mis à courir 6 mois plus tôt. Enfin, ça avait piqué ma mère. Voilà, pour ses 50 ans, il fallait qu'elle se mette à courir. Et mon père, ma sœur ont décidé de la suivre. Et moi, j'étais le vilain petit canard de la famille. Ça faisait 5 ans que je vivais arrivée à Montréal et je ne courais pas. Voilà, j'allais à la salle pour me déculpabiliser les lendemains de soirée, mais c'était pas plus que ça. J'étais un peu sportive, mais voilà, pas tant que ça. Et je lui dis, il y a peut-être un sujet vraiment aujourd'hui dans la société qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens courent. Je lui parle de mes parents, je lui parle de ma sœur et je lui parle de tous mes amis que je vois qui se mettent à courir et qui se mettent à se prendre en photo et partager sur Instagram. J'ai couru 5 km, j'ai couru 10 km et moi ça me paraissait complètement absurde et pathétique. Voilà, pour être honnête.
On va en parler. Vas-y Justine, dis-nous tout ça. Très bien.
Et en fait, ça m'intéressait et du coup mon directeur me dit c'est un super sujet. Donc en fait on a trouvé le sujet ensemble qui était pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. Qu'en fait, c'est vrai, un sujet, on peut tous se poser la question. Je sais pas s'il y en a qui courent par ici, mais on peut tous se poser la question. Et il me dit, par contre, un, tu te mets à courir, et deux, tu te mets sur les réseaux sociaux. Parce que quand on fait une thèse, faut être empathique.
Il est quand même malin, je tiens juste à dire que quand même, c'est rare. Donc,
maintenant, je lui réécris de temps en temps pour lui donner des news. C'est marrant, mais pour moi, tout part de là. Et du coup, j'avais la chance, en fait, on était en janvier 2017 et je venais en échange à Dauphine, à Paris. Heureusement, parce que franchement, me mettre à courir sous moins 35 à Montréal, c'était vraiment moins simple. Donc, j'arrive à Dauphine et je me mets à courir, coachée par ma mère, 3 km, 5 km, 7 km, 10 km. Et je m'inscris à mon premier semi-marathon à Paris, mars 2017. Et en fait...
Ça t'enchaîne quand même hyper vite, genre 2 mois plus tard.
Ouais. On perd pas de temps, on est en train d'écrire une thèse, je vais pas mettre 5 ans à l'écrire, donc je veux vite comprendre pourquoi les gens courent. Et puis forcément, quand c'est mon sujet, m'imprègne totalement de ça. Et en fait, quand je courais, j'étais même plus en train de penser à la douleur, j'étais en train de me dire, mais j'ai envie de comprendre en fait. Donc parfois je m'arrêtais, je prenais ma respiration, j'en pouvais plus. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on apprend à courir et on apprend à aimer ça. Au début, moi, je pensais que courir, c'était vraiment perdre du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait sortir de ma zone de confort et ça me faisait complètement... partir dans mes pensées et faire d'autres choses de la vie du quotidien. Et quand j'ai fait mon premier semi-marathon, c'est marrant, mais en fait, une semaine avant, je me suis dit, il m'a dit de me mettre sur Instagram, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. Donc, je m'y suis mis qu'une semaine avant mon premier semi-marathon. Et ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, j'ai commencé à utiliser les hashtags semi de Paris 2017 à l'époque, semi de Paris, hashtag tous les hashtags qu'on utilise quand on est coureur. Vous pouvez regarder les communautés de coureurs sur Insta et peut-être que vous faites partie de cette communauté. Et je me rends compte que quand je cours mon semi, je mets ma photo de ma médaille. J'étais trop fière d'ailleurs. Il pleuvait des cornes, donc c'était horrible, mais je l'ai fait quand même.
Il pleut toujours au semi de Paris.
Oui. Et j'ai plein de likes sur ma photo et plein de gens que je ne connais pas qui me disent félicitations pour ta médaille. Voilà. Je me dis, c'est quand même complètement dingue de se dire qu'il y a une communauté, il y a des gens qui se connaissent pas, mais qui se félicitent parce qu'ils vont courir. Et du coup, je trouvais ça fou et je suis complètement rentrée dans l'aventure de la course à pied. Quand j'ai eu ma première médaille, j'ai passé ma première ligne d'arrivée, j'ai dit, je veux recommencer. Et en fait, la suite fait que j'ai continué à partager mes entraînements. J'ai continuer à avoir de plus en plus d'abonnés sur mon compte Instagram. Mai 2017, 3 mois après, je cours mon deuxième semi-marathon à Ottawa. Et là, par contre, j'ai vécu les dérives de l'influence, comme j'appelle ça dans ma thèse. C'est-à-dire que j'avais à peu près 1000 personnes qui me suivaient. Et j'avais médiatisé le fait que j'allais courir ce semi-marathon. Et tout le monde me disait, c'est sûr, tu vas le faire en moins de 2 heures.
Ah oui.
Moi, complètement débutante, je ne sais pas ce que c'est que courir un semi-marathon en moins de 2 heures. J'ai mis 2h09 au premier. Bon, de toute façon, le temps... Je m'en foutais un peu et finalement, je m'étais mise dedans, à commencer à me comparer aux autres sur Instagram. Et je prends cette ligne de départ sur le semi-marathon d'Ottawa. Il faisait 35 degrés après un bel hiver où il n'avait pas fait non plus super chaud. Et je m'hydrate très, très mal. Je cours très, très vite. Et 19e kilomètre, je tombe.
Ah, au 19e en plus.
Je fais un malaise. Voilà, 2 kilomètres. Enfin, à 2 kilomètres de la ligne d'arrivée, donc c'était, j'avais un peu les boules.
Ah ouais, quand même.
Mais je fais 25 minutes d'inconscience.
C'est sérieux, quoi.
Heureusement, j'étais avec une amie qui avait l'habitude de voir des gens tomber dans les pommes. Je sais pas, apparemment, ça l'a pas surprise. Moi, quelqu'un tombe dans les pommes, je pense que je pète un câble. Mais elle a gardé son sang-froid et elle est restée avec moi. Et en fait, les médecins sont venus. Et puis, moi, dès que je me suis réveillée, que j'ai compris que j'étais au 19e, je voulais repartir. C'est hors de question. Et bref, tout ça pour dire que j'ai vécu un peu mon premier échec de la course à pied. Puis finalement, ça a été un bel échec dans l'ego. Enfin, tu t'entraînes pendant des semaines.
Ouais, c'est sûr.
T'as un objectif et en fait, tu tombes et ton objectif, tu l'as pas et tu peux pas recommencer le lendemain, quoi. Et en fait, j'ai eu du mal à le raconter sur les réseaux. Et finalement, je me souviens de mon père qui m'a appelé et qui m'a dit, non, mais attends, c'est pas grave, c'est humain. Genre,
tu t'en feras d'autres.
Tu t'en feras d'autres. Et raconte-le, en fait, parce que, c'est vrai qu'il y avait des gens qui me suivaient, du coup, à cette époque. Pas tant que ça, mais quand même des gens qui avaient envie de savoir où j'en étais. Et je fais un post où je mets une photo de mon dossard. Je me rappelle, je savais pas comment mettre, parce que ma tête, franchement, j'avais pas spécialement de photo de moi, du coup, pendant la course. Je mets une photo de mon dossard et j'explique, ma déception de cette course que je n'ai pas réussi. Et ça a été incroyable, mais ça a été un peu le début de mon compte Instagram où là, il y a des gens qui m'ont mis plein de messages pour me soutenir, me dire qu'en fait, j'étais humaine, que j'étais comme eux et qu'il fallait que je le fasse pour moi et pas pour eux. Et en fait, j'ai pris vraiment des leçons dans la figure de me dire que bah en fait, c'est pour moi que je le fais. C'est pas pour les gens qui me suivent. Et j'ai eu une discussion avec mon directeur de thèse qui m'a dit en fait, on est en train de toucher quelque chose de nouveau. On est en train de toucher comment toi, tu es en train de créer une communauté digitale et comment cette communauté peut également avoir des dérives, en fait, t'influencer négativement.
Te pousser, bien sûr.
Et du coup, mon sujet de thèse que j'ai rédigé en un an et demi, ouais, c'est ça, je l'ai rendu en avril de l'année dernière, ça a été le vrai titre, c'est « Micro-influenceuse sous influence », où en fait, je détaille comment j'ai créé ma communauté digitale, parce que du coup, après, je me suis pas arrêtée là, j'ai continué de courir, j'ai couru depuis deux marathons, j'ai couru 120 km dans le désert, pour moi et pas pour ma communauté, voilà, j'avais appris, et surtout, j'ai continué de partager, et mon compte a continué d'évoluer, je parlais de ma thèse, je parlais de ce que je faisais dans mes études, et ça a été incroyable, et j'ai parlé voilà de ma relation avec l'audience, relation avec les marques, et ça a été une super expérience, bien loin du consulting auquel je pensais avant. Et voilà. Et du coup, quand j'ai rendu ma thèse en avril 2018, je me souviens d'avoir écrit la conclusion de ma thèse qui dit que cette thèse m'a permis de me mettre dans la course à pied, de me dépasser complètement.
T'as changé la vie complètement, quoi.
De changer ma vie. J'avais 18 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux et j'utilisais Instagram quotidiennement alors qu'avant, j'utilisais pas du tout Instagram et que pour moi, les influenceurs, c'était uniquement de la télé-réalité et je n'avais pas spécialement de vraie vision de ce qu'est les communautés digitales. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est un vrai outil professionnel.
Bah, c'est clair, on le voit en particulier avec toi. Et est-ce que tu aurais, alors sans parler de la thèse, mais en termes d'enseignement justement sur la création de cette communauté, est-ce que y a des choses que tu pourrais conseiller aux auditeurs de faire ou de ne pas faire toi, par exemple, peut-être personnellement, tu vois, je pense qu'il y a le risque de s'exposer beaucoup. À la fois, il faut savoir se montrer vulnérable, mais en même temps, je pense qu'il faut savoir aussi se préserver. Est-ce que de ce point de vue-là, tu aurais des enseignements peut-être que tu pourrais partager aux personnes qui peut-être rêvent aussi d'avoir une audience comme ça, comme toi, parce que c'est vrai que ça peut être utile. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ?
Alors, il y a plein de choses. Je pourrais dire vraiment plein de choses. C'est pour ça que maintenant, j'interviens aux Étoiles du Sport avec les athlètes, parce qu'en fait, les athlètes, c'est hyper important qu'ils aient leur communauté pour avoir eux, leurs sponsors. Et j'ai appris énormément de choses à travers cette thèse. Après, est-ce que vraiment... Un enseignement que j'ai tiré, c'est qu'il faut aussi se poser des limites. Il faut pas Instagram, ça peut être voilà, c'est le champ des possibles, on peut tout partager, mais quand on veut le faire de manière professionnelle et qu'on n'est pas juste là pour partager sa vie à ses amis, il faut se poser des limites. Il faut décider de se dire, moi par exemple ma famille, j'ai toujours décidé de la partager parce que justement ma famille, c'est elle qui m'a mise dans la course à pied quand même, hein, c'est un peu de leur faute ou grâce à eux, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai toujours décidé de parler d'eux, de les montrer et puis ils étaient d'accord avec ça. Mais j'ai pour le coup des amis et puis quand je sors et voilà que j'ai un peu ma vie perso, je montre pas du tout. Donc c'est vraiment des choix à faire et après faut pas avoir peur de raconter ce qu'on pense. C'est marrant mais au début moi c'était mon plus gros blocage. Je me disais mais attends, je vais pas me mettre à me prendre en photo et poster ça sur les réseaux.
J'avoue qu'il y a un côté, bon, on en parlait juste avant de commencer, la nana comme ça dans la rue en train de se prendre en photo, en train de parler, en courant, bon, faut assumer quand même.
Complètement. Et en fait, moi, au début, c'était vraiment un blocage. Ouais. C'est drôle, mais si on remonte mon compte avant, il n'y avait pas de photos de moi, et puis d'un coup, ça bascule, il n'y a plus que des photos de moi, on a un compte égocentrique. C'est vraiment, moi, ça me fait rire parce que je me suis mise à poster des photos de moi où, en fait, faut s'assumer, faut arrêter de regarder la photo en se disant, non, mais là, ça va pas du tout, j'ai l'air horrible, ça passe pas. Faut arrêter, faut. Et en fait, moi, j'ai vraiment appris à me dire, bah, en fait, le naturel, c'est ce qui marche, c'est ce qui me fait me sentir bien. Et la relation avec l'audience est top, quoi. Donc, voilà, faut arrêter, je pense, de se regarder. Et faut aussi se dire que on peut partager ce qu'on pense. Bon, faut pas non plus être égocentrique et dire moi je suis la meilleure, moi machin. Je pense pas que ce soit ce que les gens cherchent à suivre sur les réseaux. Mais parler de ses objectifs, parler de son rêve. Je pense qu'on a tous quelque chose en nous qui nous fait vibrer. Et il s'avère que à cette époque, ça a été le running pour moi. Donc, j'ai partagé vraiment avec mes tripes comment je vivais la course à pied. Et aujourd'hui, mon compte a complètement basculé parce que Je ne cours plus tant que ça. Oui, je m'y quand même. Hein. Ouais. J'essaye de pas laisser tomber. D'ailleurs, j'ai une course qui va bientôt arriver, donc il va falloir que je m'y remette. Mais aujourd'hui, mes tripes, c'est l'entrepreneuriat. Donc en fait, je me suis mise à parler de l'entrepreneuriat avec mes tripes, et je pense que ça marche, quoi. C'est voilà, faut pas s'inventer une vie. Faut raconter vraiment ce qu'on a sur le cœur et un peu au jour le jour et se dire qu'il y a peut-être des gens, voilà, quelque part, qui nous suivent sur Instagram et qui ont les mêmes passions que nous, qui sont attirés par les mêmes envies. Et c'est hyper chouette d'échanger aujourd'hui avec des gens qui sont, bah, à l'époque, des gens qui sont attirés par le running et aujourd'hui des gens dans
le running. Et puis en plus, en l'occurrence, les deux activités, souvent, enfin, je dis pas qu'elles sont forcément liées, mais il y a une envie de liberté, enfin, il y a quand même pas mal de points communs, quoi.
C'est vrai.
Alors, très belle transition, Justine, vers Respire.
Oui.
Puisque tu me parles maintenant d'entrepreneuriat, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux en deux mots, enfin, je pense que tout le monde ici a vu la vidéo, donc voilà, mais est-ce que tu peux quand même me réexpliquer d'où t'es venue l'idée de Respire et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, non, je vais pas devenir consultante, mais je vais lancer une boîte de cosmétiques. Qu'est-ce qui a fait que t'as pris ce risque, quoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, je pense que vous l'avez peut-être tous entendu dans la vidéo, c'est donc je courais énormément. J'avais pas encore rendu ma thèse, mais début 2018, je me rends compte que j'ai une petite boule dans la poitrine et je vais faire des examens. Et c'est une tumeur bénigne, donc c'est bénin, mais c'est à contrôler tous les 6 mois. Et c'est le genre d'annonce que quand on te la fait et qu'on te parle de tumeur, ça déclenche quelque chose dans le cerveau et donc forcément tu te dis non mais c'est pas possible, ça arrive qu'aux autres clair. Et pas à moi. Et bon,
t'avais
même
quel
si
âge
même
à
si
ce moment-là?
Bah j'avais 23 ans.
23, ouais.
23. Et même si c'est bénin, tu te dis ok bah faut quand même checker. Et ça veut dire que c'est un peu le premier pas dans des examens médicaux. Ouais. Et en fait je parle là à la médecin en ce moment-là et elle me dit, et je lui dis mais c'est lié à quelque chose, c'est lié à quoi? À ce moment-là on se pose plein de questions. Et en fait les médecins n'ont pas vraiment de réponse à nous donner parce qu'aujourd'hui, tout peut être, enfin, ça peut être lié à tout. Hein. Soit on parle du micro, on parle des téléphones, on parle de tout. Mais elle me dit, je pense qu'il faut faire de plus en plus attention à ce qu'on se met sur la peau, sur le corps, et qu'il y a des produits controversés. Et puis elle me parle du déo, mais bon, sans me dire qu'il y a un vrai lien parce qu'en fait, il n'y a pas de preuves scientifiques, donc les médecins ne peuvent pas non plus l'amener comme ça. Mais elle m'en parle. Et du coup, elle émet un petit soupçon dans ma tête où je rentre chez moi et puis je commence à détailler toutes les compositions. Du coup, je suis pas du tout issue de la chimie ou quoi que ce soit, vous l'avez bien compris. Et je commence à regarder toutes les compositions de mes déos. Et puis, alors, je me rends compte déjà que l'étiquette de mon déo n'a même pas la composition. En fait, il faut que je soulève l'étiquette,
ouais,
c'est un autocollant,
puis tu comprends
et
quand
je suis dans ma composition. Je me dis, ok, les noms en latin, je ne comprends rien. Et notre meilleure amie à ce moment-là, c'est Google. On commence à regarder et là, Google, de toute façon, ça amène tout. Et donc, je vois beaucoup d'ingrédients controversés. Et puis, je commence un peu à paniquer. Je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, je décide de changer de déodorant, drastiquement. Je vais acheter d'autres déodorants. J'en teste plein. Et en fait, j'étais pas du tout satisfaite. Soit il y en avait qui marchaient pas. Soit c'était pas du tout un déodorant à billes comme j'ai l'habitude d'utiliser, c'était de la pâte à étaler avec mes doigts, ça faisait des taches sur mes vêtements, ça faisait des résidus sous mes bras. Je me disais, mais c'est quand même pas possible qu'il y ait pas un déo qui ressemble à mon déo industriel, mais qui soit clean et efficace. Et là j'ai eu le premier truc, je me suis dit, tiens, il manque quelque chose sur le marché. Deuxième chose, j'avais donc cette communauté Instagram où je me disais que j'étais plus spécialement vouée à aller dans le consulting. J'avais un peu créé autre chose. Et surtout, je m'étais rendu compte que j'avais un impact positif.
Tu avais commencé
positif
à évoluer quand même déjà dans ta conception à ce moment-là.
Ouais, à ce moment-là, j'avais à peu près 18 000 personnes qui me suivaient. Donc, c'était déjà quand même... voilà, j'avais quand même déjà pas mal d'échanges avec ma communauté. Et je me disais, c'est quand même incroyable. J'ai un impact positif sur cette communauté parce que beaucoup de personnes m'écrivaient en me disant, c'est dingue, tu me motives à aller courir. Grâce à toi, j'ai fait mon premier marathon. Et je me disais, mais c'est fou. Moi, je suis trop fière de me dire que des gens courent leur marathon grâce à moi. Et je me disais, bah, cet impact positif, peut-être que je peux parler d'autre chose que juste la course à pied. Donc déjà, ça me motivait à me lancer en me disant, si j'arrive à trouver la motivation et le courage de me lancer, j'aurai peut-être cette communauté qui va me suivre. Donc il y avait ça. Et puis la troisième chose, c'est ma rencontre avec Thomas. Thomas, donc, qui est mon associé, et qui, lui, c'est un visionnaire, Thomas, j'ai envie de dire. Et on a eu un coup de cœur professionnel. On est complètement complémentaires. Complètement complémentaires, c'est pouf. Et en fait, lui avait déjà lancé une boîte. Lui, il a fait HEC Paris Entrepreneur. Il avait déjà lancé une boîte dans l'analyse de data, donc rien à voir avec Respire. Et il l'avait revendue. Et puis, en fait, il réfléchissait déjà à lancer une autre boîte plus en B2C, donc axé sur le consommateur.
D'accord.
Et très intéressé par les DNVB, donc toutes ces marques digitales.
Qu'on connaît bien.
Digitales qu'on connaît bien. Et il regardait beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis. Et il était très intéressé par la gestion des communautés digitales. Boum, pile dans le sujet de ma thèse. Du coup, on commence à échanger beaucoup. On s'est rencontrés par amis d'amis. Et on s'est rendu compte qu'on était super complémentaires. J'ai commencé à parler du déodorant. Et puis voilà, parfois, il y a des planètes qui s'alignent et on s'est dit go, on y va, c'est le moment de se lancer.
Donc c'est la rencontre quand même qui a vraiment aussi facilité le truc.
Je ne me serais pas lancée seule et je suis même pas sûre que j'aurais dit je vais le lancer et je vais chercher quelqu'un.
Et donc Thomas et toi, juste pour comprendre, vous vous connaissiez, vous aviez des amis d'amis en commun, c'est ça ?
C'est ça, on avait des amis en commun, je savais qu'il avait déjà lancé une boîte.
C'est toujours une question aussi, tu sais, pour les personnes qui souhaitent se lancer et qui veulent justement pas se lancer seule, c'est comment est-ce que je rencontre un associé ?
Ouais.
Bon, bah, toi du coup tu le connaissais.
C'est ça, après c'est quand même un peu du hasard et... Enfin, du hasard, oui et non.
Oui, mais t'as su le cultiver. Et,
on a provoqué un peu notre chance et notre destin en échangeant, en se rendant compte qu'on avait des compétences complémentaires.
Et alors, justement, cette complémentarité, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous vous êtes répartis les rôles tout de suite ou est-ce que vous avez juste commencé à brainstormer, tu vois, bosser sur la boîte ? Comment est-ce que... Ça a été quoi les premières étapes, en fait, vos premières réflexions quand vous avez lancé Respire ?
Alors, au tout début... C'est dur de remonter.
Il y a si longtemps que ça, quand même.
Bah ouais, c'est vrai, mais il s'est passé tellement de choses que c'est difficile. Aujourd'hui, nos rôles sont bien définis. Au tout début, c'est vrai que Thomas a été le premier à... Parce qu'en fait, quand on s'est lancé, je rendais ma thèse qu'en avril.
Oui,
donc en mars, quand on a commencé à dire on se lance, il avait beaucoup plus de temps que moi. Et du coup, c'est lui qui a vraiment commencé à chercher des laboratoires. Des laboratoires pour trouver une docteure en pharmacie, quelqu'un pour nous aider à développer ce fameux déodorant, parce qu'en fait, on n'est pas pharma, donc on n'allait pas le faire dans notre cuisine. Mais en fait, on travaillait quand même ensemble, on réfléchissait ensemble à tout le côté marketing, c'est un grand mot, mais plutôt positionnement de marque. En fait, qui on a envie d'être ? Branding, ok, on lance ce déodorant, mais on a envie d'être un déodorant pour les sportifs, on a envie d'être un déodorant mixte pour tout le monde. On savait pas trop. Et donc, c'est là ce moment où on se pose ensemble et qu'on essaye de mettre des barrières, des limites et de se dire, OK, c'est ça notre direction. C'est ça le premier axe sur lequel on va aller. Et ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, quand on y repense, on a eu plein d'axes différents. Et je suis très contente qu'on ait choisi celui-ci de s'adresser à une, c'est mixte. On n'a pas segmenté la cible en deux parce qu'en fait, aujourd'hui, les déodorants, il y a des déodorants hommes, des déodorants femmes. Mais en fait, on peut tous mettre le même. Il y a
bien
pas celui des hommes n'est pas plus efficace que celui des femmes. Enfin, c'est la même chose et c'est juste une question de branding. Donc, pour nous, on s'est dit, ça sert à rien de couper la cible en deux. Tout le monde peut mettre le même. Après, on s'est dit, c'est pas uniquement un déodorant pour les sportifs, c'est pour tout le monde. À la base, on voulait aller un peu avec ses sports, vu que ma communauté était en sport. Mais on s'est dit, en fait, tout le monde met du déodorant au quotidien. Et puis même si tu cours pas, tu cours pour prendre ton bus et t'as besoin de déo, clairement.
Et le nom Respire, c'est venu très rapidement ou comment est-ce que vous y avez pensé ?
Alors, c'est marrant parce que c'est la troisième fois qu'on me pose la question.
Excuse-moi, je suis
très
originale.
Et en fait, j'ai pas d'histoire très fun sur
parce
ce
qu'en
nom.
Fait, je t'avoue que je trouve ça assez cool comme nom et c'est pas évident que ça allait être accessible parce qu'il y a toujours des problèmes de propriété intellectuelle. Tous les entrepreneurs racontent des histoires d'horreur à propos du dépôt de la marque. Et donc, le fait que vous ayez Respire, c'est quand même super. Et je me dis que c'est un bon choix et que vous avez une bonne idée, quoi.
Ouais, merci. En fait, c'est vrai qu'au tout début, c'est marrant, mais pendant 5 mois ou 4 mois, on était sur un autre nom qui n'a rien à voir.
Tu peux le divulguer ?
Oui. Notre marque s'appelait Décide.
Décide.
Rien à voir.
Écoute.
Et en fait, c'était un peu dans l'optique de se dire, décide de prendre soin de ton corps, décide de changer tes habitudes. Et du coup, on était sur ce mot Décide. Et puis tout d'un coup, on s'est dit... Mais on est beaucoup trop autoritaire, en fait. Enfin, on va pas dire aux gens de se décider, quoi. S'ils veulent se décider, c'est à eux de prendre la décision. Et du coup, on brainstormait ces moments où on creusait, on se dit, mais c'est quoi notre nom? Et là, on échangeait plein de noms, on n'arrêtait pas d'écrire des mots. Et en fait, on a aussi envie de quelque chose, entre décide et respire, c'est quand même un mot qui veut dire quelque chose. Vous voulez pas inventer un mot.
Ouais.
Et voilà, Thomas, lendemain de soirée, apparemment, il y a des moments comme ça, où lendemain de soirée, on a des super idées, il prenait le train. Et il m'appelle, il était dans le train. Et quand il me raconte, c'est très drôle parce qu'il était en train de vraiment se creuser la tête, en train de se dire, mais c'est quoi le nom qu'on va donner à la marque ? Et tout d'un coup, illumination, Respire. Et il m'appelle pour me le dire. Respire, clairement, pour moi, ça faisait clairement du sens. Et du coup, on a foncé, go sur Respire. Et on a eu de la chance de l'avoir.
Tu m'étonnes. Écoute, non mais en tout cas, c'est un beau nom. Et vous avez bien fait de le choisir. Est-ce que tu peux me parler donc de cette fameuse levée, si je puis dire, de crowdfunding, donc c'est-à-dire ta fameuse levée Ulule. Alors je dis levée, c'est pas le bon terme, mais en gros, vous avez quand même récolté énormément d'argent pour vous lancer. Vous avez fait le choix en plus, et j'aimerais bien qu'on en parle de ne pas prendre le risque de produire en amont, ce que font beaucoup de boîtes aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer si c'était évident pour vous tout de suite de passer par du crowdfunding ou est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous avez brainstormé? Et ensuite, bah, comment est-ce que vous avez lancé ça? Parce que toi, tu avais ta communauté, donc évidemment, c'était utile pour t'aider, pour communiquer dessus. Mais je pense que vous avez été beaucoup plus loin que uniquement targeter ta communauté. Enfin, on en a parlé au tout début avec cette fameuse vidéo LinkedIn qui a été vue 2 millions de fois. Est-ce que, voilà, déjà, pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que vous êtes mis en place, si tu veux, cette réflexion? Et deuxièmement, bah, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait, quoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient bien réussir à avoir un tel succès sur une plateforme de crowdfunding. Donc, dis-nous un peu tes tips.
Alors, pour nous, c'était une évidence de se lancer en crowdfunding parce que on avait déjà observé ce qui se faisait sur le crowdfunding et on se disait que c'était très chouette. Aujourd'hui, je dis toujours que le crowdfunding apporte 3 choses. 1, ça permet d'apporter de la notoriété dès le début, de se faire connaître en parlant en tant que porteur de projet, en faisant vraiment passer un message sur l'idée du projet. 2, ça permet de jauger l'intérêt du marché. Clairement, c'est en voyant si les gens achètent que ça intéresse ou pas. Là, ça a été plutôt validé. Et 3, ça permet de financer la première production. Donc, ce qui est exceptionnel parce que clairement, on n'avait pas les moyens de financer notre première prod.
Bien sûr.
Et en fait, pourquoi le crowdfunding en septembre, donc à peu près en septembre l'année dernière, donc 2018, on a trouvé la formule où on s'est dit, ça y est, on l'a, c'est
vous
maintenant,
ce que vous voulez.
Faut se lancer. Sauf qu'en fait, on voulait aller sur le marché rapidement. Parce que clairement, quand on a une idée, vaut mieux y aller rapidement plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Et surtout, on s'était dit, en fait, on a beaucoup de la cosmétique est très réglementée en Europe et heureusement, parce que c'est pour ça qu'il y a que des produits qui sont vraiment qui passent tous ces tests, qui sont mis sur le marché. Et en fait, dès le début, on s'est dit, ok, bah là, on a trouvé la formule. Il fallait encore qu'on trouve un peu les parfums. Et on a à peu près 4 à 5 mois de tests réglementaires faire. Donc, ça laissait encore beaucoup de temps à attendre avant d'aller sur le marché. Et en fait, aller sur le crowdfunding, ça te permet aussi d'aller parler de ta marque avant même de devoir mettre ton produit sur le marché et avant même de pouvoir produire. Et nous,
tu crées le désir avant de, enfin c'est de la création de désir pur.
C'est ça. Et du coup, ça nous a permis ça aussi. Alors en septembre, quand on avait trouvé la formule, qu'on avait déjà totalement l'idée de la marque, on était prêt à se lancer. Je me souviens, enfin on l'a décalé beaucoup de fois le lancement du crowdfunding. À la base, on le lançait fin septembre. J'ai fait ma course de 120 km dans le désert fin septembre et je me souviens qu'on devait le lancer juste après. Et en fait, avant que je parte, on a dit mais pas du tout, on n'est pas du tout prêt. Et en fait, on l'a reculé énormément jusqu'au 5 novembre parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. J'avais pas envie de reculer jusqu'à Noël parce que je me disais mon Dieu, un déodorant acheté à Noël. Voilà, faut aussi choisir un peu son moment. Mais en fait, novembre n'a pas du tout été un problème de le lancer en novembre plutôt qu'en été. Et en fait, on l'a lancé à ce moment-là, on l'avait extrêmement bien préparé. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà ma communauté, donc ça, c'était génial parce que j'avais déjà créé, aujourd'hui, j'en parle souvent, c'est le Respire Club. Donc en fait, c'est des personnes qui sont venues nous rencontrer depuis septembre, du coup, que j'ai annoncé sur les réseaux que je lançais ma marque qui s'appelait Respire. Je n'avais pas dit que c'était un déodorant, je voulais un peu garder la surprise et puis je voulais pas qu'on me pique mon idée. Et du coup, je dévoilais un peu au fur et à mesure ce que c'était, mais surtout, je conviais 15 personnes chaque semaine à venir me rencontrer pour échanger. C'était génial parce que je me suis rendu compte, ces personnes étaient déjà très impliqué, très investi, avait vraiment envie de m'aider. Et ça a été de la co-création. Vraiment, aujourd'hui, si on a lancé un mini déodorant, c'est grâce à la communauté.
C'est vrai. Parce initialement, vous aviez un produit qui était plus important.
Ah ouais. Et en fait, je me souviens du premier rendez-vous qu'on a fait avec des personnes de la communauté. Je leur ai posé la question, donc je leur ai parlé du déo, et puis je leur pose la question, je leur dis, le déodorant pour vous, il est où? À quel endroit vous le gardez? Et là, il y en a plusieurs qui me disent, bah en fait, j'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai un dans mon sac de sport, un dans mon sac à main, un dans mon tiroir de bureau. Je me dis, c'est pas possible. Il va prendre 4 déodorants de 50 ml.
Tu t'es dit aussi, bon business.
Qui va se balader. Bon business, mais mec, il en achète 4. Mais je me suis surtout dit, c'est incroyable. Il faut trouver un mini. Ouais. Et en fait, un déo à billes mini, il n'y en avait pas sur le marché.
C'est vrai.
Et donc, ça, c'est un exemple type que la communauté nous a vraiment aidé à créer cette marque et ce produit. Donc ça, c'est le Respire Club. Et du coup, le Respire Club, on a toujours ce groupe WhatsApp où on échange, c'est peut-être plus quotidiennement, mais au moins de manière hebdomadaire. Encore hier, on leur a posé un sondage, plutôt 1 ou plutôt 2. Et c'est trop marrant parce que du coup, ils nous donnent plein d'avis et c'est génial. Et en fait, cette communauté nous a clairement permis, au moment où on a lancé le crowdfunding, on avait bien tout préparé avec eux. Et en fait, ça a été les premiers ambassadeurs à diffuser le message,
ouais,
à l'amplifier. Et clairement, c'était des personnes qui avaient peut-être sans contact sur Instagram.
Mais c'est déjà énorme.
Mais il suffit de se dire que cette personne, elle va en parler à 3 personnes autour d'elle, qu'elle va le mettre sur Instagram, que ça va être visible par peut-être 20 de personnes. Ouais. C'est énorme, en fait. Et du coup, c'est plein de... Voilà, plein de personnes qui nous ont vraiment aidé à amplifier le message dès le début. Et donc, ce crowdfunding, tout était préparé. Moi, j'ai donc des copines influenceuses qui ont des communautés. J'avais tout un peu préparé en mode, tu vas m'aider, voilà, faudra en parler. Et c'était génial parce que tout le monde a été vraiment présent ce 5 novembre à midi où je décidais de lancer le crowdfunding.
C'était important justement que tout le monde le relaie, mais tout de suite et que ça parte très, très fort.
Ouais, c'était important que... Voilà, que ça prenne tout de suite. Et en fait, sur le crowdfunding aujourd'hui, si on le regarde, il y a écrit objectif 300. Et en fait, notre objectif dans notre tête, c'était pas d'en vendre 300. Notre objectif, notre vrai objectif, la veille du lancement, on se disait, pardon, avec Thomas, si on en vend 2000 ou 3000, on est hyper content. Bon, 21 000, finalement, voilà, ça a été hyper content. Et en fait, pourquoi on a mis objectif 300? C'est parce qu'il y a des techniques un peu du crowdfunding. C'est marrant, je pense qu'un jour, je devrais écrire
toutes les choses
que je pense du crowdfunding.
Mais dis-les-nous aujourd'hui.
Mais c'est en fait, le crowdfunding, ce qui est bien, c'est quand ton objectif, tu l'atteins rapidement. Parce qu'en fait, tout de suite, t'as les gens qui se disent, et puis même la presse qui peut le relayer, et qui se disent « Oh là, c'est incroyable, objectif atteint en 24 heures. » Donc déjà, on va pas mettre un objectif trop élevé, parce que si on l'atteint pas, on n'a pas les sous, donc d'accord, c'est pas la peine. Faut quand même que le projet fonctionne un peu. Et après, on se dit quand même, faudrait essayer que l'objectif, je dis 24 heures, mais voilà, en 2-3 jours, ce serait génial. Et donc moi, je m'étais dit, ce serait top qu'on arrive à vendre 300 déodorants en 2-3 jours. Bon, finalement, on en a vendu 1500 en 24 heures. Ouais. Donc, les 300, on les a bien dépassés, je crois, en 2 heures. Et j'étais complètement... voilà. Mais en fait, c'est un peu des techniques comme ça où le crowdfunding, pour que ça prenne aussi, pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait tous les ingrédients. Et donc ça, c'était une des techniques du crowdfunding.
Et au niveau du contenu, donc toi, tu avais alimenté beaucoup en amont, mais tu as fait aussi donc cette fameuse vidéo. C'était tout de suite évident pour vous qu'il fallait avoir un peu une vidéo explicative que tu allais pouvoir relayer, qui serait vraiment ton outil de communication majeur pour le crowdfunding, ou ça t'a été suggéré? Enfin, comment ça s'est passé?
C'était une évidence. Ouais. Alors pourquoi? Parce que déjà, sur Instagram, je parle beaucoup. En story, je me suis toujours dit qu'en fait c'est un des meilleurs liens qu'on a avec les personnes qui nous suivent, parce que c'est ce qui permet déjà de communiquer hyper rapidement.
Ouais, bien sûr.
Parce que quand j'écris, franchement, ça me prend du temps. Je préfère faire une story où je parle, même si parfois j'ai l'air plus ridicule. Ça va beaucoup plus vite. Et en fait, je suis à l'aise. Enfin, j'ai le conseil que je disais tout à l'heure, faut arrêter de se regarder. J'ai arrêté de me regarder parce que sinon, si on se regarde, on la poste pas, hein, la story. Donc j'ai arrêté de me regarder. Je me dis, vas-y, ça part.
Ça passe.
Et en fait, du coup, j'ai toujours, enfin toujours non, du coup ça fait que 1 an et demi, quoi, enfin à partir du moment où j'ai eu le déclic de me dire ok, je suis capable de parler à mon téléphone, je me suis dit en fait je vais faire une vidéo pour raconter l'histoire. Alors au début c'était un peu touchy de raconter l'histoire du début, la tumeur, j'étais pas spécialement dans l'envie tout de suite de raconter ça. Et en fait c'est vrai qu'en échangeant avec Thomas, comme je disais tout à l'heure, pour moi Thomas il est visionnaire, et lui il m'a dit mais Justine, ça vient de tes tripes, ça vient de ton histoire, donc raconte-le.
Il a raison.
Et il a eu raison. Parce qu'en fait, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, une marque, tout un projet, il marche aussi parce qu'on sait d'où il vient et on sait pourquoi il existe aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai raconté ça tout naturellement. Et du coup, cette vidéo, c'était la chose la plus importante qu'on voulait faire pour notre crowdfunding. Et pour vous dire, on avait le script de la vidéo depuis septembre. Et donc, il y a un passage dans la vidéo où je suis en selfie, dans le désert, mes 120
qui
kilomètres.
Qui a été fait en septembre.
Où je dis une phrase, on a testé dans les conditions extrêmes, ce déodorant. Et la phrase, je l'avais. Et ça, c'était pendant mes 66 bornes, je m'en rappelle, la deuxième étape. Pendant les 16 premières bornes, j'avais en tête qu'il fallait que sur cette longue plage, je savais qu'il y avait un moment où ce serait super beau, je voulais faire mon plan vidéo. Et je suis trop contente parce que franchement, avec le bruit des vagues et tout, ça aurait pu ne pas du tout marcher. Et aujourd'hui, ce plan vidéo, il a trop bien marché. Il s'est calé à merveille dans la vidéo. Et donc, ce script, vraiment, on l'avait pensé, réfléchi. Et voilà, après, on l'a fait aussi avec beaucoup de spontanéité, parce que même si on l'avait écrit pendant le tournage, parfois, j'étais en mode, mais attends, cette phrase, je l'avais écrit, mais ça sonne bien l'écrit, mais ça sonne pas du tout à l'oral. Et du coup, en fait, je le faisais un peu avec mes envies et mon humeur,
mais au final quand même, voilà. Ce que je retiens, c'est que ça a marché, et tout ce crowdfunding a marché, mais aussi parce que t'avais une préparation de malade mentale, concrètement. Oui, donc, oui, oui. Messieurs, dames, il n'y a quand même pas trop de secrets dans la vie. Faut bosser, quoi. Une autre question que je voulais te poser, c'est donc maintenant, Respire, c'est plus qu'un déodorant. Vous avez lancé aussi donc, la fameuse crème solaire Respire, oui. Petit instant pub. Est-ce que tu peux me dire, c'est peut-être difficile, mais aujourd'hui, quelle est votre vision pour Respire en termes de développement? Quels sont vos grands projets? Donc, je sais que vous êtes en train de beaucoup vous développer en retail. Vous avez ouvert un Monoprix, donc vous vendez maintenant les produits là-bas. Mais pour vous, en fait, là, les prochaines étapes, ça va être de continuer à être très digital. Ça va être au contraire de vraiment essayer de vous étendre au niveau du retail. Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir déjà?
Oui, bien sûr, on y réfléchit au quotidien parce que c'est notre quotidien et il faut avoir une vision court terme, moyen terme, long terme pour Respire. Et c'est vrai qu'on a commencé, nous, avec le déodorant, parce que c'était ce qu'il y avait de plus urgent, puis c'est le déclic, c'est ce qui m'a donné le déclic. On est allé sur la crème solaire, parce que pour moi, c'est ce qui me paraissait un des produits les plus opaques aujourd'hui et que j'avais très envie d'aller sur la crème solaire.
Je me permets juste de t'interrompre. C'était évident pour toi, dès le début, avec Thomas, que vous n'alliez pas faire que du déodorant?
Ouais. En fait, dès le début, peut-être pas, mais dès qu'on a trouvé la formule, on s'est dit il faut aller sur d'autres produits, il faut aller sur d'autres formules. Et ouais, c'était quand même une évidence qu'on avait envie d'y aller, qu'on avait envie de
créer
bouger
une marque plus globale en fait, de soins.
C'est ça, envie de faire bouger les choses et pas juste le déodorant.
D'accord.
Qui est quand même déjà un super marché et voilà, c'est un produit, c'est le deuxième produit qu'on utilise le plus chaque jour après le dentifrice. Donc il y a d'autres produits d'hygiène qu'il faut aller chercher et nous clairement on a cette ambition. Et là on est déjà en train de travailler en recherche et développement avec différents laboratoires sur ces nouveaux produits, donc des produits d'hygiène. Nous ce qu'on veut c'est aller offrir des alternatives à toute notre routine quotidienne, toute notre routine du matin. Donc ça passe par le déo, ça passe par la douche, ça passe par plusieurs produits et donc on travaille vraiment dessus aujourd'hui. Et le but, c'est, si on veut être, notre vision long terme, c'est de devenir la marque de référence en termes d'hygiène clean en Europe. Donc aujourd'hui, on est en France, on travaille, quand tu parles de digital et de retail, on travaille bien sûr les deux. Aujourd'hui, on a notre site internet et c'est très important pour nous de le développer. Ça nous permet d'avoir une relation directe avec nos consommateurs et c'est génial. Moi, j'adore le site internet, pouvoir échanger avec les gens. Mais on a aussi le retail qui est venu à nous. On a eu vraiment beaucoup de chance. On a reçu beaucoup de demandes entrantes de la part des distributeurs pour référencer nos produits dès le début. Et c'est vrai qu'au début, c'était peut-être pas notre ambition numéro un. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie. On avait envie d'y aller. On avait envie d'aller toucher une autre cible qui me suit pas sur Instagram.
Voilà, c'est ça.
Qui moins n'est niche. Pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et en fait, Monoprix nous a paru être une super enseigne. C'est une enseigne qui est très accessible, mais aussi premium. Et en fait, aujourd'hui, notre déodorant, il est quand même premium. On le vend à un prix plus élevé que les déodorants industriels. Donc, je pense que si on allait chez Intermarché ou Leclerc aujourd'hui, ça dénoterait un peu de se retrouver à côté de tous les déodorants. Mais chez Monoprix, il y a quand même déjà une prise de conscience du consommateur. Le consommateur est déjà un peu sensibilisé. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que c'est un énorme succès. On est en rupture de stock quasi partout chez Monoprix. Donc, on essaye aujourd'hui d'aider Monoprix à réapprovisionner plus vite ses magasins parce qu'ils en ont en centrale d'achat. Ils ont repassé plusieurs commandes déjà alors qu'ils ont lancé que le 20 mai. Donc, ça fait à peine plus d'un mois, mais c'est assez exceptionnel et donc on va continuer à développer le retail en ayant toujours une vision stratégique. On veut pas aller partout, on veut pas se disperser trop et faire des mauvais choix. Aujourd'hui, on aurait eu la possibilité vraiment cet été de se lancer depuis le mois de mai dans plusieurs enseignes et je ne regrette absolument pas d'avoir décidé de faire uniquement Monoprix, déjà parce qu'on a une super bonne relation avec Monoprix, ils sont géniaux. Deuxièmement, parce qu'on est une petite équipe et que clairement, on se serait complètement perdu si on avait été dans tous les retailers aujourd'hui.
Non, mais c'est un bon conseil, c'est clair. J'ai l'impression sincèrement que tu vas quand même de succès en succès et c'est top. Mais une question que j'aime bien poser malgré tout, c'est les moments difficiles, c'est les moments de doute. Et je sais pas si t'en as eu, mais je pense que c'est important de pouvoir les partager parce que malgré tout, on a toujours un peu la vision idyllique de l'entrepreneur qui cartonne, ton crowdfunding qui cartonne, des ruptures de stock partout. Tu vois, on a un peu l'impression que tout est facile. Je peux imaginer que c'est pas facile et on a compris tout à l'heure qu'en plus, il y avait beaucoup de travail derrière, mais au-delà de ce travail, est-ce que toi aussi t'es passé déjà à ce stade de la vie de l'entreprise par des moments de difficulté, de doute, de galère, sincèrement, dont tu pourrais nous parler?
La réponse est oui.
Oui.
J'ai clairement. C'est plutôt récent. Alors non, je dis c'est récent, mais mon premier coup de blues, enfin j'ai envie de dire entre guillemets, c'est fin novembre, 7 décembre, quand le crowdfunding se termine. on avait vendu 21 018 déodorants, comme tu disais. On avait fait un record, le record beauté de Ulule.
Ouais.
Et c'était complètement incroyable. Et là, en fait, au lieu de faire le week-end au champagne et de célébrer, je pleurais.
La descente.
J'ai pleuré et je me suis rendu compte que je me prenais une énorme claque dans ma figure, une énorme responsabilité de tout d'un coup, ta vie vient de changer. Il va falloir livrer 21 000 déodorants. Mmh. Donc là, maintenant, tu te reposes pas sur tes lauriers. Alors pendant un mois, j'étais en train de bosser comme une dingue sur ce crowdfunding, parce que ça s'arrête jamais, hein, le crowdfunding. Si vous vous lancez un jour dans le financement participatif, sachez que pendant 30 jours de campagne, voilà, on dort pas beaucoup. Et donc, j'étais complètement épuisée. Et à la fin de ce crowdfunding, je me suis dit, voilà, maintenant, ça va se calmer. Mais pas du tout, en fait, parce que c'est maintenant que tout commence. Et maintenant, j'ai des contributeurs qui m'attendent. Mmh. Et donc ça a été mon premier coup de... Je réalisais, voilà,
prise de conscience, quoi.
Prise de conscience totale sur ce qui arrivait devant moi. Donc
là, plus, j'imagine que vos labos étaient pas du tout. Enfin, vous aviez dû parler d'une montée en charge et tout, mais si vous me parliez de 3000 commandes, ils devaient pas tellement s'attendre à 21 000, quoi.
Alors non, je pense qu'elle s'y attendait pas. Véronique, donc celle qui nous a fait confiance depuis le début, je me souviendrai toujours quand on lui a envoyé un mail pour lui annoncer le chiffre final de la campagne. Elle nous a répondu. Wouhou! Avec des points d'exclamation. Parce que c'était une surprise pour elle, pour nous. Et du coup, ça a été génial. Là, il a fallu se structurer. Il a fallu se dire, OK, mais maintenant, par où on passe? Et surtout, on s'entoure de qui? On s'est toujours dit, on veut s'entourer des meilleurs. On veut pas perdre de vue notre objectif. On veut rester focus. Et du coup, on veut pas s'occuper des choses qui nous font perdre du temps, entre guillemets, style la logistique. Donc, on a décidé de déléguer la logistique. Alors qu'à la base, moi, je me voyais faire les colis. Si c'était 300 vendus, je me voyais les faire.
Oui, 21 000 chez moi. Enfin,
c'est clairement, 21 000, clairement, j'ai dit tout de suite, OK, oui, là, faut qu'on trouve un logisticien. va falloir qu'on se structure. Et puis, il fallait trouver un conditionneur parce qu'en fait, notre laboratoire, finalement, était en mesure de produire la quantité de liquide du déodorant, mais pas de conditionner dans tous les flacons. Donc, il fallait trouver un conditionneur. Et c'est là où, en fait, on rentre dans le dur du sujet, on rentre vraiment dans le côté professionnel. On se dit, OK, là, c'est business. Là, va falloir trouver les bonnes personnes. Et puis, clairement, on n'a pas du tout la science infuse. On ne sait absolument pas tout. Donc, toujours meilleur ami Google. Et là, on trouve des contacts, on rencontre des personnes. Et vraiment, j'ai été hyper agréablement surprise parce qu'il y a beaucoup... Enfin, les gens que j'ai rencontrés, il y en a peu qui nous ont envoyé péter. Il y en a... Enfin, la plupart des gens ont hyper bien accueilli notre projet et ont eu envie de nous aider. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui sont top. Bon, on a quelques soucis aussi parce qu'il faut bien. Mais il y en a vraiment qui sont top et qui nous accompagnent. Et sans eux, aujourd'hui, on serait rien. Donc c'est vraiment top. Mais bon, du coup, pour refocus sur ta question qui était...
Non, mais tu m'as parlé d'un moment difficile de descente un peu et de prise de conscience, quoi.
Ouais, ça, c'était voilà au début. Ensuite, je dirais... voilà, il y a eu des moments, et ça, c'est un peu plus récent. C'est quand on est le nez dans le guidon. Cette expression, je ne la comprenais pas trop avant, mais c'est vraiment... Aujourd'hui, je ne sors pas beaucoup de tout ce qui se passe. Respire. Et en fait, on a du mal à prendre du recul, au point qu'on dort pas très bien. Voilà, il y a des fois où on se réveille la nuit, on se dit « Oh, mais j'ai oublié de faire ça. Oh, mais il faut absolument que je fasse ça. » Parfois, on a des super idées en pleine nuit, donc c'est génial. Mais parfois, du coup, le matin, on est vraiment pas bien.
Parfois, elles sont assez pourries aussi.
Ouais, parfois, elles sont assez pourries. Et c'est marrant, mais il y a des fois où j'ai eu des coups de barre où je suis rentrée chez moi, voilà, avec quelques larmes, en me disant, bah en fait, je suis en train de, voilà, je suis en train d'être bouffée par ça et il faut absolument que je sorte la tête de l'eau et que je sois pas avalée par tout ce qui se passe. Et du coup, c'est bien parce que au moins je me connais et donc les moments où je commence à avoir un peu de fragilité, je le sens tout de suite. Voilà, j'appelle tous mes proches et je me remonte comme je peux et à la limite, au moins ce qui est bien. Et Thomas, je sais qu'il est pareil, c'est que dès qu'on va pas très bien, qu'on peut avoir un petit coup de down, on a besoin d'une journée peut-être, enfin un week-end, et on se ressource, et là on repart à fond, quoi.
Mais du coup, c'est encore récent, mais tu t'autorises de te prendre des jours off, de te prendre des semaines peut-être off, quand vraiment tu sens que t'es...
Alors à la base, non, ouais. Parce que soit je dis oui, on coupe et puis on repart à fond, même le week-end c'est difficile de couper. Pour la première fois, je vais partir en vacances.
Félicitations.
En juillet, là, la semaine prochaine. Donc, voilà, je me l'autorise et j'en parlais aujourd'hui avec l'équipe. C'est vrai que je culpabilise en vrai de partir. Et en même temps, ils sont super sympas, l'équipe, parce qu'ils me disent t'en as besoin. Mais je sais que je resterai en contact, je peux pas couper parce que après, c'est normal. Et puis, c'est aussi une question d'affection et de relation avec l'équipe. Mais je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien et j'ai besoin aussi de, pour être encore meilleure et avoir des nouvelles idées et puis surtout, voilà, rester surtout sur notre vision et la mission qu'on a, qui est de remettre le corps au centre de nos priorités, trouver, voilà, essayer de trouver tous les éléments qui vont nous aider à garder cette mission dans la main et pas la lâcher. Et
voilà, si la mission, c'est de prendre soin de soi, faut que tu prennes soin de toi aussi.
En effet, c'est une très belle transition, mais c'est voilà. Vrai.
Pour terminer, ensuite, on va laisser le public, justement, poser ses questions. J'aime bien, normalement, demander les livres. Tu sais que, ouais. que mon invité me recommande. Tu m'as dit que tu préférais qu'on parle de podcast.
Ouais.
Eh ben, allons-y.
Alors, pourquoi ? C'est parce que je ne lis pas tant que ça. Et qu'en fait,
t'as pas le temps.
J'ai beaucoup lu, mais je me rends compte que j'ai plus le temps du tout. Mmh. Et en fait, on me pose ces questions-là, mais j'ai peut-être pas encore trouvé le livre dont j'ai envie de parler, de recommander.
Pas de problème.
Donc voilà, quand je me mettrai à lire, je prendrai le temps. Peut-être qu'en Grèce.
Et du coup, est-ce qu'il y a des podcasts que t'écoutes qui te plaisent, des podcasts particuliers qui te plaisent ?
Oui, le tien. Ton merci podcast beaucoup. Le Gratin qui est génial.
Bon, c'est gentil.
Il y a Génération XX ouais. qui est super. Enfin, il y en a vraiment pas mal et c'est le podcast c'est génial parce que pour le coup t'as pas besoin de lire, tu te mets dans le métro, tu te mets
c'est clair. Et tu cours avec.
Puis, ouais, tu cours avec et puis même ça te réveille, ça te met dans un mood où comme t'écoutes des gens qui sont positifs et qui ont des supers idées, bah t'as envie d'aller plus loin.
Cool, trop bien. Bon, Justine, je t'ai posé plein de questions, mais maintenant, c'est vous qui allez nous les poser les questions. Donc, on va vous passer le micro. Qui a justement une petite question à poser à Justine ? Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Eh bien, voilà. Alors, je vais juste vous passer mon micro.
Alors, bonsoir. Hein. Déjà, félicitations. Moi, je fais partie de ceux qui ont participé au crowdfunding.
Merci.
D'ailleurs, j'ai beaucoup transpiré pour venir.
J'espère que tu sens bon.
J'espère que je ne sens pas trop mauvais. En tout cas, sinon, il faut en parler à Justine.
C'est pas de ma faute, c'est de sa faute.
Alors moi, j'ai une question. Moi, je trouve le parcours génial. Et c'est vrai que j'ai vraiment été hyper séduite, par le produit, mais aussi par la façon de le présenter. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de participer à l'aventure. Et donc, pour moi, tu es un soufflet qui a pris très, très vite. Et comme dans tous les soufflets, tu commences à avoir aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. J'ai vu passer cette semaine des haters et je pense que ça va arriver assez rapidement. Et donc, je me demande, je voudrais savoir comment tu t'y prépares, si tu t'y es préparée et qu'est-ce que tu envisages de faire pour pallier à cela.
C'est une excellente question. Quand Pauline, tout à l'heure, m'a posé la question de voilà, est-ce que j'ai des downs ? Je ne l'ai pas abordé. Mais c'est un de mes downs récents parce que au-delà d'être une marque
juste pour les personnes qui je suis ouais, désolée de rentrer dans le vif du sujet mais pour les personnes qui comme moi n'ont pas suivi c'est quoi le débat.
Alors il y a en gros je pense qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui commencent enfin je pense que dès qu'on prend un peu la lumière et qu'on commence à avoir un peu de succès entre guillemets, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des personnes aussi qui mettent des bâtons dans les roues et donc il y a eu un article qui a été posté sur LinkedIn qui critique la crème solaire et qui dit qu'elle est identique à un autre produit. Donc et qui décrédibilise la marque en fait. C'est l'article passe comme si nous on n'avait mis aucun travail et aucune ressource dans le développement de cette crème solaire et que en claquant des doigts j'ai acheté une formule et j'ai dit hop crème solaire sur le marché. Alors que ça se passe pas du tout comme ça. Et donc ce genre d'article qui a été posté, je l'ai vu. J'en avais eu un premier qui a été posté en novembre. Je vais vous en parler au moment du crowdfunding. Une scientifique qui a comparé mon déodorant à celui d'Ushuaïa, donc d'une marque industrielle, et qui dit qu'ils sont identiques. Et bah, c'est l'opposé, en fait. Il suffit de prendre la formule Ushuaïa et la formule Respire. Les ingrédients ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un qui est similaire, c'est le triéthylcitrate, qui est un actif végétal, pas très connu, mais un actif végétal qui permet d'absorber l'humidité. Voilà. Et tout le reste, nous, clairement, on a du romarin qui neutralise les odeurs. Enfin, bref, on a de l'alcool, mais de l'alcool de blé bio 100% naturel, alors que Ushuaïa, c'est de l'alcool dénaturé, de moins bonne qualité. Enfin bon, c'est des choses très différentes. Et du coup, que ce soit cet article, le premier qui avait été posté, m'avait atteint. Et puis en fait, les conseils autour de moi m'avaient dit ne réponds pas, c'est minime et puis c'est surtout ça sert à rien parce que ça ne veut rien dire. L'article est faux. Donc j'avais pas spécialement répondu. Et puis finalement, forcément, en tant que consommateur, il y a des gens qui tombent dessus, qui le lisent et qui croient les paroles parce que sur Internet, c'est ça qui est beau aussi, hein, c'est que c'est le champ des possibles. On a le droit de tout dire, c'est la liberté d'expression et donc tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et donc quand on lit ça, quelqu'un qui a envie de la croire peut la croire. Mais du coup, nous, ça sur le coup, ça nous faisait pas tant de mal. Et en fait, là, je me suis rendu compte que on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se mettent à nous suivre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent avoir envie de nous casser sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui accepter parce que, enfin, accepter, je l'accepte, mais en fait, au-delà d'être une marque, je suis humaine. Et du coup, quand quelqu'un aujourd'hui attaque Respire, vu que j'incarne énormément la marque, il attaque aussi Justine Hutto. Et donc, je le prends de pleine face, boum. Et c'est vrai que ce week-end, quand je suis tombée sur l'article, donc vendredi, au début, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas grave parce que cette crème avec laquelle il me compare, elle est super bonne. Donc en fait, tant mieux. Enfin, c'est à la limite, ça me porte pas préjudice. Juste, c'était la manière dont il me décrédibilisait qui me faisait mal. Mais je me suis dit, bon, bah voilà, toute personne qui connaît un peu les cosmétiques sait que ça se passe pas du tout comme ça. Et puis en fait, le problème, c'est que ça a commencé à buzzer, voilà, c'est la première fois que j'ai vécu ça, les gens qui commencent à commenter, et puis là mon nom qui se fait taguer je ne sais pas combien de fois, je me suis dit mais c'est pas possible, et donc je voyais, j'étais en mariage ce week-end en plus, donc je voyais juste genre mon truc qui vibrait partout, et puis ce qui m'a le plus touchée c'est dimanche matin, je me réveille, et en fait quelqu'un avait écrit à mon père sur LinkedIn, pour lui dire qu'il fallait que je réponde, et là je me dis c'est pas possible quand même que quelqu'un entre dans ma vie privée à ce point-là pour contacter mon père et lui dire que je dois répondre ou que lui donne une réponse. Et du coup, là, j'ai décidé, en fait, de répondre. Je pense que maintenant, la prochaine fois que j'ai une attaque, je réponds dans les 24 heures. J'attends pas 3 jours. Et on apprend beaucoup. On apprend aussi à garder la tête hors de l'eau parce que franchement, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer, de me dire, mais c'est pas possible, comment je fais? Et forcément, ce moment-là, le bad buzz, du coup, j'ai un peu étudié. J'ai un ami youtubeur, Gonzague, qui m'a donné des conseils et qui m'a dit, dans ces moments-là, tu ne réagis pas à chaud, tu t'entoures des bonnes personnes et tu te fais conseiller et tu fais une réponse. La réponse qui te semble la plus claire, où t'es la plus honnête possible, et tu la posteras une fois, plusieurs fois, mais tu ne commence pas à te justifier sous plein de choses parce que ça sert à rien de rentrer dans un débat. Et c'est vrai, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de débat. Et du coup, j'ai rédigé une réponse avec mon associé et on l'a postée dimanche après-midi. Et en fait, j'ai été super contente parce que cette réponse, elle a permis du coup de faire changer la perception de certaines personnes qui avaient juste lu l'article et qui tout de suite avaient une vision négative de Respire. Et puis, j'ai eu énormément du coup d'échanges de messages privés positif, sur LinkedIn, positifs, avec des personnes qui m'ont soutenue, des personnes qui m'ont défendu en commentaire, et ça fait vraiment chaud au cœur parce que là on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et bon, il y a des personnes qui gardent leur position et qui critiquent la marque, mais je pense qu'on peut pas non plus plaire à tout le monde. Donc s'il y a des gens qui comprennent pas et qui veulent rester sur position, enfin voilà, c'est faut aussi accepter qu'on plaît pas à tout le monde. Après, nous, on a vraiment une mission, c'est ça, c'est d'offrir des bons produits, de les créer avec la communauté et de les offrir à un prix le plus accessible, qui nous paraît le plus juste avec ce qu'on arrive à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à bien le faire. Et donc, la communauté qui arrive à nous suivre, à nous défendre, c'est génial. Et voilà, j'essaye de prendre du recul en essayant de relire les messages positifs parce que quand il y a un message négatif, on se focus que sur le négatif et on oublie tous les autres qui nous soutiennent.
C'est sûr.
Et ça, en vrai, ça me fait super plaisir d'en parler ce soir parce que je sais pas si j'aurais pris la parole sur mon compte Instagram pour en parler. Pourquoi ? Parce que j'ai pas spécialement envie d'élever le discours de ces articles malveillants. Mais en même temps, je trouve que c'est bien aussi d'en parler et c'est bien de le vivre parce que c'est la première fois que je l'ai vécu et ça fait grandir. Je pense que vraiment, depuis un an et demi, j'ai énormément grandi. Et ça, c'est une des choses qui fait grandir. Et franchement, à la limite, je me dis, c'est un mal pour un bien parce que ça me challenge énormément et ça me pousse à faire encore mieux, toujours plus de transparence et expliquer comment on formule nos produits, comment ça se passe la formulation avec nos laboratoires. Et du coup, j'ai fait une vidéo là récemment je vais la monter ce soir si je trouve le temps pour vous poster cette vidéo bientôt et du coup, je raconte un peu plus, un peu plus de transparence.
Mais en tout cas, ce que tu dis, moi, pour l'avoir un tout petit peu vécu et puis pour avoir aussi d'autres invités, je pense à Augustin, de Michel Augustin, qui avait vécu quelque chose de similaire. L'injustice, elle est terrible et c'est ça que tu prends personnellement. Mais je pense que, en fait, ton raisonnement d'entre guillemets créé par un process, mais tu vois, de te dire, en fait, les erreurs à ne pas commettre, c'est de répondre à chaud ou de ne pas répondre et de vraiment, en fait, te dire, ça va me réarriver et c'est possible. Malheureusement, je te le souhaite pas, mais j'ai peur que ça arrive à nouveau. En gros, il faut que tu essayes de créer un cadre pour ne pas le prendre trop personnellement et juste entourer, comme tu dis, des meilleures personnes parce que, malheureusement, ça arrive.
Exactement. En tout cas, merci pour cette question. Ça me fait plaisir d'en parler.
Est-ce qu'on a une autre question dans le public ? Ouais, super. Alors par contre, comme on est, je suis équipée d'un câble assez court, je pense qu'on va te demander le tien. Et je vais te donner mon...
Bonsoir, merci pour ton témoignage. En tout cas, bravo pour ton dynamisme. Tu parlais à l'instant de ton affection avec ton équipe. Je voulais savoir, est-ce que tu as recruté d'abord et comment ? Et puis comment on arrive à manager des gens ? Enfin, est-ce que tu considères que tu manages des gens en lancement de boîte ? Parce que finalement, c'est un peu deux dynamiques parallèles. Et comment la structuration s'articule, quoi.
Merci beaucoup pour cette question, qui est la question que je pose aujourd'hui aux entrepreneurs que je rencontre. Parce qu'en fait, on a besoin d'apprendre. Et c'est vrai que moi, je suis passée de mes études à Respire. Et j'ai pas eu de modèle. En fait, j'ai pas de modèle sur lequel me calquer et me dire, bah, en management, j'ai vécu ça, j'ai adoré. J'ai travaillé au Canada. Mais le boss que j'avais, en fait, je travaillais de chez moi, j'étais très libre, on avait une super relation. Et du coup, j'ai pas vraiment vécu ce côté vraiment management et cadrage. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas facile, parce que c'est ça, j'ai 25 ans. Et dans les personnes, donc aujourd'hui, on est une équipe de 8. Il y a beaucoup de personnes qui sont chez nous aujourd'hui grâce à des candidatures spontanées. J'ai reçu énormément de candidatures spontanées et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, ça prouve que c'est les personnes les plus motivées. Et puis surtout, ça prend du temps de faire des offres, voilà, de proposer des postes et de regarder toutes les candidatures. Mais en fait, j'ai des candidatures spontanées quasi quotidiennement. Et c'est génial parce que du coup, voilà, elles tombent dans mes mails et puis je les regarde. Et puis parfois, il y a des personnes comme ça qui m'interpellent et je me dis, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et donc, on a des stagiaires. Donc, les stagiaires, ça a été du spontané. On a Beryl qui vient d'arriver en développement produit. Alors, elle, c'est génial. J'ai rencontré via LinkedIn. Et Beryl, en développement produit, elle est passionnée de cosmétiques et elle va nous aider clairement à créer les meilleurs produits qui vont arriver bientôt. On a Joris qui a rejoint l'aventure aussi. Joris, il aime pas trop, mais je l'appelle le couteau suisse parce qu'il sait tout faire et qu'on a besoin de ça dans une start-up. On a Camille qui est responsable communication et aujourd'hui qui a pris la voix de Respire. Alors, c'est marrant quand je dis ça parce que la voix de Respire, c'est la mienne. Mais en fait, le compte Respire Instagram, je m'en détache parce que déjà, j'ai pas le temps de le gérer. Et surtout, j'ai une vision pour la marque, enfin, un branding, voilà, que j'aime bien. Et Camille, enfin, le branding que j'aime bien, c'est utiliser aussi l'humour, et puis un peu un côté aussi, assez design. Et Camille, elle a vraiment cette touche que j'adore. Donc, je suis ravie de bosser avec elle et elle est top, parce qu'elle fait clairement ce que je serais incapable de faire. Et aujourd'hui, le management, je dirais que c'est vraiment pas facile. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour la première fois ce midi, avec Thomas, on s'est posé, en fait, on a fait un déjeuner d'équipe, donc tous les 8. Et avant ça, on s'est posé tous les 8 et on a exposé les résultats, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les derniers mois. On a lancé en soi depuis le 15 mai, donc ça fait un mois et demi. Et c'était hyper intéressant de leur amener en fait ce pourquoi ils sont là aujourd'hui et ce qu'ils ont permis à Respire, ce qu'ils permettent à Respire au quotidien. Et ça, je pense que c'est une forme de management d'avoir fait ça avec eux. Mais ça a été génial et j'ai adoré. Donc, on n'a pas du tout de théorie précise. On n'a pas du tout de mise en place particulière pour le management. Mais je m'inspire aussi beaucoup de mes équipes. Par exemple, Camille, on travaille vraiment en binôme sur la communication. Et récemment, j'ai fait un point avec elle et je lui ai dit, qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que t'aimerais que je fasse de plus, en fait, voilà, pour que ça t'aide à travailler. Et elle m'a dit, je veux qu'on fasse des points plus réguliers, 2 par semaine. Et ben j'ai dit ok, donc maintenant on fait 2 points par semaine. En fait c'est ça aussi, j'essaye d'avoir le retour des personnes qui travaillent avec moi pour savoir qu'est-ce qu'elles préfèrent et comment je pourrais mieux manager entre guillemets. Après c'est très difficile parce que comme tu dis, est-ce qu'on manage vraiment dans une start-up en lancement de boîte? C'est très difficile parce que moi je suis peu présente, je suis beaucoup en rendez-vous à droite, à gauche. C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait d'une journée type. C'est vrai que le matin quand je me réveille, parfois je vais pas au bureau tout de suite. Genre ce matin j'avais un rendez-vous directement à 8h30, donc hop, on file au rendez-vous. Puis on enchaîne en fait les rendez-vous dans la journée. Et cet après-midi j'étais au bureau, sauf qu'en fait j'avais que des calls. Donc c'était des rendez-vous téléphoniques toutes les demi-heures. J'avais un rendez-vous téléphonique qui s'enchaînait. Et du coup, j'étais dans ma petite salle et il y a des moments où je sortais, je disais ah ça va, quelqu'un a besoin de moi. Et donc là j'avais des questions en 2 minutes. Et du coup c'est des moments où en fait on se sent un peu pas dépassé par les événements, mais il se passe beaucoup de choses. Et du coup, le management, c'est clairement ce qu'on met de côté. Mais moi, je l'ai en tête et je me dis que j'ai vraiment envie de créer cette cohésion d'équipe. Aujourd'hui, on s'entend tous super bien et je suis super contente parce que dans l'équipe, ils font vachement d'efforts à à échanger beaucoup entre eux, à manger ensemble. Mais je pense que on va apprendre au fur et à mesure. Et même les personnes qu'on va recruter, parce que là, du coup, on recrute, on cherche des postes. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo qui sort aussi, qui sort demain normalement, où je parle d'embauche qu'on va avoir très prochainement. Et je suis persuadée qu'avoir des personnes aussi avec l'expérience qui vont venir dans l'équipe, ça va vraiment nous aider à se structurer. Et voilà.
une autre question pour quelqu'un, je crois que j'avais vu par ici. Voilà, hop, devant.
Déjà, félicitations pour ton parcours très inspirant. Moi, c'est plus des questions par rapport aux produits. Donc, j'ai vu qu'ils étaient faits en France. Est-ce que c'était une volonté particulière? Est-ce que c'était un argument marketing plus pour le côté éthique, écologique?
Merci pour la question. C'était une vraie volonté dès le début de se dire on a envie de faire du made in France. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau éco-responsable, il y a un impact carbone qui est carrément diminué. Ça crée de l'emploi en France. Et puis c'est bête, hein, mais on en parle très peu. Mais c'est tellement plus facile de faire du business en France parce qu'en fait, en Bretagne, le labo, je prends le train et en 2 heures, je suis en Bretagne dans mon labo. Donc c'est déjà pour des questions vraiment de facilité. Et même si ça coûte plus cher, on sait que le produit il sera de super qualité, que la relation avec le fournisseur elle sera top. Ça, c'est aussi un argument marketing, clairement. Et puis, c'est des valeurs et des convictions qu'on a au niveau éco-responsable et puis sociétal, sur le fait que ça crée de l'emploi. Donc, c'était un choix. Après, si demain, je lance un produit et qu'en fait, il n'y a pas d'usine spécialement en France qui peuvent le créer et qu'il sera de meilleure qualité s'il est fait dans un autre pays en Europe, bah pourquoi pas. Moi, je suis franco-belge, donc en fait, je suis un peu européenne. Voilà, je suis pas que française, donc finalement, je peux aller en Belgique, mais je peux aller aussi ailleurs. Je me sens très européenne au-delà d'être française. Donc, si je vais dans un autre pays, j'aurai aucun problème à ça, si ça apporte vraiment de la qualité à mon produit et si c'est justifié. Et dans ce cas, je l'assumerai sans problème. Aujourd'hui, on a le petit drapeau français sur le produit, donc c'est sûr que je serais déçue de devoir enlever mon drapeau français, mais peut-être que je mettrai un drapeau belge ou j'en sais rien. Mais ouais, c'est à la base les convictions, mais aussi c'est pour le produit, pour que le produit soit super bon et de qualité.
Je crois qu'il y a une petite question aussi sur Instagram. Alors vas-y Fanny, je vais te passer le...
demande au début du lancement, notamment au niveau des médias, comment on fait pour avoir cette notoriété qui se développe rapidement.
Merci pour la question.
Question un peu fourre-tout, mais bon.
Ouais, question pas facile parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la communauté, donc ça a bien aidé. Ma communauté que j'avais déjà en fait sur Instagram, ça a bien aidé. Après, les réseaux sociaux.
Alors peut-être si on précise un peu des petits conseils peut-être pour Instagram qui t'ont fait émerger, que des petits tips ou des erreurs fréquentes que tu vois peut-être chez des personnes qui essayent de développer ou des marques qui essayent de développer leur communauté.
C'est pas facile. Instagram, j'en parlais tout à l'heure, donc être très spontané et être très régulier et fréquent pour développer son compte. Hein. Être très régulier, s'imposer vraiment une fréquence sur Instagram, se dire qu'on va y aller tous les jours et c'est du travail, c'est chronophage Instagram, on peut y passer une journée entière. C'est marrant parce qu'en plus maintenant Instagram nous dit le temps qu'on y passe dessus. Moi j'essaie de pas trop regarder. Bon maintenant j'y passe beaucoup moins de temps, mais je pense qu'avant, enfin Camille, voilà ma responsable com, si je regardais combien de temps elle y passe dessus, je pense qu'elle est 4 heures par jour dessus. Je lui demanderai demain, tiens. Mais ouais, faut passer du temps dessus et c'est vrai que voilà, faut essayer d'étudier aussi ce qui se fait. Moi, pour développer mon compte au niveau de la course à pied, je me suis énormément inspirée de toutes les influenceuses dans le milieu de la course à pied. Je regardais comment elles faisaient, quelles photos elles faisaient quand elles couraient. Enfin, c'est génial, mais en fait, on s'inspire aussi de ce que les gens font en se l'appropriant. Ça sert à rien de copier parce que si je faisais les mêmes poses qu'elles, j'avais l'air pas du tout naturelle. Donc, je me le suis appropriée et je pense que voilà, avec de l'authenticité, on arrive aussi à développer. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'authenticité aujourd'hui et moi, j'adore en parler parce que j'ai le sentiment d'être authentique. Je me pose pas 3 fois la question avant de poster quelque chose. Et
je témoigne. Toutes les fois où j'étais avec Justine, elle poste direct. Moi, je suis comme ça.
J'avoue. Ouais, mais c'est vrai que je me pose même pas la question. Et c'est vrai que mes équipes, ils me le disent tout le temps. Parfois, je me dis, oh non, j'ai pas communiqué. Et du coup, je prends mon téléphone et je fais une story et je préviens personne. Et toute l'équipe derrière, ils me disent, Justine, t'abuses. Puis là, je me rends compte qu'il y avait des nouveaux produits derrière. Je me dis, oh bah non, je dois la supprimer. Faut voir aussi ce qu'on partage. Mais ouais, faut être, ouais, faut être spontané, faut être régulier. Donc ça, c'est au début sur la communauté Instagram. Et puis après, au niveau des médias, ça, c'est... Les médias, ça s'impose pas, en fait. Enfin, je peux pas contacter BFM et dire « invitez-moi », quoi. J'ai eu énormément de chance de prendre un abonnement BFM. Je rigole, mais c'est vrai que j'ai fait 3 fois BFM en 1 mois et ça a été... ouais, beaucoup de chance, ils m'ont invité et c'est génial. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité à chaque fois, même si j'étais hyper flippée.
Ils soutiennent beaucoup les entrepreneurs BFM quand même.
Ouais, c'est chouette. Mais j'ai été hyper flippée la première fois que j'ai reçu l'invitation. J'étais en mode, mais comment je vais faire pour m'exprimer à la télé en direct? Et finalement, là, c'est presque pareil. Hein. Je flippe aussi quand Pauline Legno m'invite. Mais...
Bien sûr.
Mais voilà, non, c'est... Ouais, moi, je pense que l'authenticité et le naturel, ça aide beaucoup.
En tout cas, ça se sent chez toi. Une dernière question, messieurs, dames. Je suis désolée parce que le temps passe et qu'on a déjà dépassé l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parfait.
Bravo, Justine, pour ce parcours jusqu'à présent.
Merci.
Je te souhaite plein de succès pour le futur. Ta première idée de thèse parlait du branding de marque à l'international. Donc, la question qui boucle, c'est est-ce que tu vas te lancer à l'international? On parle beaucoup de clean beauty, clean fragrance. Les États-Unis sont très friands de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête avec ton associé ou pas? Merci.
Merci pour cette question. C'est vrai que oui, ça fait un vrai écho à mon premier sujet initial, donc qui était d'aller à l'international. Et j'ai très envie d'aller à l'international. J'ai très envie d'aller déjà en Europe. Déjà parce que c'est une demande qu'on reçoit. Je reçois énormément de messages de personnes, même en anglais, hein, des gens qui parlent pas français, mais qui suivent un peu Respire, puis qui doivent faire afficher la traduction sur Instagram, qui me demandent les produits. Donc aujourd'hui, on a ouvert l'envoi à l'international sur notre site internet. Ce qu'il y a, c'est que bah, c'est difficile avec les livraisons, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, malheureusement, à l'international, on peut pas offrir la livraison. Mais j'ai vraiment très envie d'aller trouver des partenaires retail à l'international. Et j'y travaille, d'ailleurs j'ai eu des discussions aujourd'hui, je me fais pas mal contacter par quelques retailers. Après voilà, faut le temps que l'équipe se structure bien, se mette en place et que je développe une équipe un peu de sales qui puisse m'aider, où je trouve des agents qui sont locaux en fait pour m'aider. Mais c'est vraiment dans l'objectif d'y aller. On a vraiment envie d'aller toucher l'Europe. Et ensuite, vous parliez des États-Unis. Pourquoi pas? Les États-Unis, c'est vrai que c'est la clean beauty. Ils sont vraiment à fond là-dessus. Moi, comme j'ai étudié 6 ans au Canada, j'adorerais aller au Canada. J'ai tous mes amis québécois qui m'écrivent tout le temps pour que j'y vienne. D'ailleurs, j'ai été contactée par Jean Coutu, qui est la pharmacie canadienne. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile avec les frais de douane.
Ouais, c'est ça.
Voilà, envoyer. Puis c'est vrai qu'après, l'impact environnemental, envoyer transatlantique. Il faut trouver des solutions. Donc, j'ai très envie d'y aller. Je ne me précipite pas. Mais si en 2020 ou en tout cas dans les années qui suivent, vous me voyez international, vous ne serez pas surpris.
Bon, Justine, merci beaucoup pour tous ces partages.
Merci, Pauline.
Merci d'avoir accepté. Merci à tout le public d'être venu, de vous être déplacé par ce temps torride. On est très content de vous avoir eu avec nous. Je diffuserai le podcast donc dans les quelques semaines qui viennent. Je te dis à bientôt, Justine. Je te souhaite le meilleur pour Respire. J'ai hâte de savoir quels vont être les nouveaux produits.
Oui.
Et voilà, et puis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Ciao.
Hello à nouveau, et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas, j'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.